formidable. Vous êtes légitime, vous avez votre place, vous êtes compétente. Investissez-vous dans cette vie politique.
Il faut du courage pour faire de la politique, que l'on soit homme ou femme, mais je crois qu'on ne pardonne à rien nos femmes.
On vient vous chercher parce que vous êtes une des pièces du puzzle qui va faire gagner.
Un message qui, moi, m'a été transmis, alors que j'étais jeune et que j'avais pas forcément confiance en moi. On m'a dit, Sophie, il faut y croire, toujours y croire.
Quand vous doutez de vous, pincez-vous.
Bonjour, je suis Laurie Théron et je vous accueille sur mon podcast Les Mariannes. Dans cette émission, que j'ai conçue pour vous aider à prendre toute votre place dans la vie publique de notre société, je reçois des femmes politiques et des activistes qui inventent le monde de demain. Pour soutenir ce podcast, notez-le 5 étoiles. Vous pouvez aussi laisser un don sur la plateforme Tipeee. Enfin, je suis évidemment présente sur les réseaux sociaux. Vous me retrouvez sous le compte elmariannefr. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Mon invitée du jour est Jeanne Barseguian, maire écologiste de Strasbourg et première vice-présidente de l'Eurométropole. J'ai donc eu le privilège de recevoir une femme à la tête de l'une des plus grandes villes de France, une femme qui défie les statistiques puisque je rappelle que seulement 20% des maires sont des femmes actuellement dans notre pays. Dans cet épisode, on a bien entendu parlé de son parcours politique, de l'éveil de sa conscience écologiste à son engagement politique, mais pas que, nous avons aussi parlé de la violence des réseaux sociaux, de l'importance d'avoir un équilibre dans sa vie professionnelle et personnelle quand on est un élu, des freins et de l'autocensure des femmes vis-à-vis de la politique. Bref, nos conversations ont été très riches. Strasbourg a aussi été désignée capitale mondiale du temps. C'était aussi l'occasion donc de revenir sur ce concept et sur cette volonté de promouvoir des politiques temporelles innovantes au service des citoyens, comme par exemple le congé menstruel ou la semaine de 4 jours. Enfin, un dernier mot pour vous apporter une information qui me semble importante. Dans l'épisode, nous évoquons le sujet du congé maternité des élus. Depuis l'enregistrement de cet épisode, sachez qu'une proposition de loi sur le statut de l'élu a été adoptée à l'unanimité au Sénat, avec le soutien du gouvernement. Le texte qui a été adopté prévoit le maintien du revenu des mères en congé maternité. Ce texte a été transmis à l'Assemblée nationale et il est donc toujours en cours de navette parlementaire. Voilà, j'essaierai de vous donner des nouvelles de ce texte sur les réseaux sociaux pour suivre un petit peu le parcours de cette loi qui pourrait effectivement changer la donne pour plusieurs élus. N'hésitez pas à réagir sur cet épisode sur Instagram, sur Facebook ou sur LinkedIn. Je vous laisse à présent en compagnie de Jeanne Barseguian et je vous souhaite une très bonne écoute. Jeanne Barseguian, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va commencer ce podcast avec la série de questions portraits chinois, comme je fais avec toutes mes invitées. Donc, quelques petites questions un petit peu personnelles pour apprendre à mieux vous connaître et à vous permettre de dévoiler un petit peu plus votre personnalité. Alors, si vous aviez un super pouvoir, vous aimeriez avoir lequel ?
Ouh, demander ça à une femme politique, c'est osé parce que souvent les habitants pensent justement que à partir du moment où on est élu, on a des super pouvoirs. Donc parfois j'aimerais avoir cette baguette magique qui me permet de régler toutes les difficultés du quotidien pour les personnes. Voilà, et peut-être en particulier la réduction des inégalités.
Alors, en avril 2024, Strasbourg sera la première ville française à recevoir le label de capitale mondiale du livre. Si vous étiez un livre, vous seriez lequel ?
Puisqu'on m'a beaucoup parlé de la place des femmes, j'avais envie de vous donner les bandes dessinées d'Emma sur la charge mentale. Fallait demander, parce que je trouve que c'est une BD qui a vraiment permis de démocratiser l'idée de la charge mentale et de ce que vivent les femmes au quotidien.
Et si vous aviez une heure de plus chaque jour, que feriez-vous ?
Alors très clairement, je retournerais chanter en chorale. Voilà, c'est quelque chose que je n'ai plus le temps de faire depuis que je suis mère et ça me manque énormément.
Super. Alors on va rentrer directement dans le cœur de cet épisode avec des statistiques. En France, seulement 20% des femmes sont mères. Et vous êtes à la tête d'une des plus grandes villes de France. Vous êtes aussi la première vice-présidente de l'Eurométropole, elle-même présidée par une femme. Qu'est-ce que vous ressentez à l'idée de vous dire que vous faites partie de cette poignée de femmes aux manettes en France ?
Je pense que c'est une très bonne chose, en tout cas, que de plus en plus de femmes accèdent à des hautes responsabilités. Alors c'est vrai qu'à Strasbourg, c'est presque une tradition d'avoir une femme maire, puisque je suis la troisième, je suis la première maire écologiste de Strasbourg, mais il y a déjà eu deux femmes maires avant moi, Catherine Trottmann et Fabienne Keller. Donc voilà, ça semble être en tout cas pour les Strasbourgeois quelque chose d'assez naturel, mais je constate que c'est pas forcément le cas. Je le constate en France, je le constate aussi en Europe. Pour vous dire juste avant qu'on est ensemble cette conversation, eh bien j'ai eu un échange sur le fait d'accompagner et de mentorer des femmes politiques pour les accompagner dans des démarches où elles se présenteraient pour devenir maire de grandes villes en Europe. Donc pour vous dire que c'est un sujet dont on s'empare parce qu'on a bien conscience que ça n'est pas forcément une évidence partout. Je m'en rencontre aussi quand je suis dans des réseaux, dans des événements organisés par des réseaux de maires, hein, à l'échelle nationale ou européenne. Donc, on a encore du chemin à parcourir. Mais à Strasbourg, on est plutôt bien lotis, puisqu'effectivement, une maire femme, une femme présidente de l'Eurométropole, une préfète, une procureure de la République, une présidente du Parlement européen. Effectivement, je travaille dans un environnement très féminin.
Alors, on va se plonger un peu dans votre parcours. Vous avez commencé par étudier le droit de l'environnement à Strasbourg. À quel moment votre conscience écologique s'est-elle éveillée? Et à quel moment vous avez décidé de militer?
Alors, la conscience écologique s'est éveillée très tôt, mais pas sous l'angle politique. Au départ, j'ai eu des engagements plutôt associatifs. Donc, c'était pendant ma vie étudiante et notamment pendant les 2 années que j'ai pu passer en Allemagne, parce que j'ai un parcours franco-allemand. C'est là que j'ai pris conscience des enjeux environnementaux. J'étais plutôt axée sur les questions de protection de la nature, mais donc j'ai d'abord milité dans des associations. Ensuite, cet engagement écologique, il m'a accompagnée dans ma vie professionnelle, puisque je me suis formée au métier d'environnement, qui était assez peu répandu au début des années 2000. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi Strasbourg, qui avait, vous l'avez dit, une formation en droit de l'environnement, mais aussi une formation d'éco-conseiller, c'était éco-conseillère. Donc, j'ai fait cette formation professionnalisante qui permettait de travailler dans différentes structures, publiques ou privées, en conseil en environnement. Et la conscience plus politique est venue plus tard, dans les années 2012-2013, quand j'ai eu à travailler pour des élus écologistes au niveau du conseil régional en Alsace, et que suite à cela, j'ai décidé de m'engager pour la campagne des municipales à Strasbourg en 2014, ce qui m'a conduit à être sur la liste et à être élue d'abord conseillère municipale dans le dernier mandat.
Est-ce que vous considérez, est-ce que vous vous revendiquez comme une féministe ou une écoféministe? Est-ce que c'est une notion qui a une place un peu particulière pour vous?
Alors oui, je suis clairement écoféministe, mais je n'ai fait le lien entre mon engagement féministe et mon engagement écologiste qu'assez tardivement, lors de l'éclosion des mouvements écoféministes en France. Ils existaient déjà depuis de nombreuses années, notamment aux États-Unis. C'est vraiment quand un collectif s'est créé à Strasbourg, un collectif écoféministe, que j'ai commencé à lire de nombreux ouvrages et à faire ce lien qui peut exister entre finalement une domination patriarcale et une domination sur le vivant, les ressources naturelles. Et cette logique, finalement, qui conduit aussi à des catastrophes écologiques. Donc, oui, c'est quelque chose qui me porte, mais j'ai fait le lien entre les deux, finalement, il y a seulement quelques années.
Alors, on va revenir un petit peu sur votre accession à la ville de Strasbourg. Quand vous décidez, vous, de mener cette liste en 2020, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu un doute? Est-ce qu'on est venu vous chercher? Est-ce que vous aviez une idée claire que vous vouliez porter cette liste?
Non, je vais être honnête, je me suis posé énormément de questions et on m'a demandé de me présenter. J'ai eu besoin vraiment de réfléchir individuellement, collectivement, aussi bien avec mes proches, parce que c'était pas un engagement à prendre à la légère. Évidemment, devenir maire, c'est un sacré bouleversement dans une vie, à la fois personnelle mais aussi professionnelle, puisque comme je vous l'ai dit avant, j'ai travaillé pendant une douzaine d'années en collectivité, en association, à mon compte, dans le secteur privé. Donc, c'était forcément un choix qui remettait cela en cause. Et puis, au niveau collectif, vraiment de nombreuses discussions, parce que J'étais prête à y aller, mais à condition que ce soit une démarche très ouverte, très participative, très collective, ce qui a été le cas. Et donc, cette introspection qui a duré quand même quelques mois m'a permis de savoir exactement ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. De dire, j'irai avec la personnalité qui est la mienne, y compris en ayant conscience que je ne correspondais pas aux standards peut-être habituels, hein, des standards très, très virilistes de la politique. Et je souhaitais, voilà, pouvoir rester moi-même, pouvoir rester fidèle à mes convictions et être dans une démarche résolument collective et participative. Une fois que ces conditions étaient bien fixées, ben, j'étais très au clair sur le fait que j'étais prête pour y aller et avec beaucoup d'enthousiasme.
Et justement, quel souvenir vous gardez de cette campagne des municipales ?
Un excellent souvenir. Ça a été évidemment une période extrêmement intense. Hein. Je ne le cache pas, il y avait beaucoup de travail, beaucoup de... Mais il y avait une effervescence, il y avait une joie en fait à travailler sur un nouveau projet pour notre ville. Comme le projet a été collectif, on a vu arriver beaucoup de personnes qui n'avaient jamais fait de politique avant, mais qui avaient envie de s'engager, qui arrivaient, par exemple, des parents de jeunes enfants. Ils disaient, bah, en fait, moi, je viens d'avoir un déclic et pour mes enfants, j'ai envie que ça bouge, donc j'ai envie de participer à ce projet. Et du coup, ça a créé vraiment une dynamique assez formidable avec aussi de l'humour. C'est-à-dire qu'autant on a travaillé un projet extrêmement sérieux et solide sur les propositions qui étaient chiffrées, budgétées, analysées. On a vraiment travaillé très sérieusement sur le programme, mais sans non plus se prendre trop au sérieux. Et donc, on s'est permis aussi de l'humour, une campagne de communication parfois un peu décalée, qui a pu ramener, je pense aussi, de nouvelles personnes qui se tenaient éloignées de la politique. On savait que les chances de l'emporter étaient très étroites, mais qu'elles existaient. Et c'est finalement ce qui s'est passé.
Alors aujourd'hui, à quoi ressemble votre quotidien ? Si on passait une semaine avec vous, qu'est-ce qu'on verrait ? Où est-ce qu'on irait ? Qu'est-ce qui se passerait ?
Beaucoup de choses différentes. En fait, il y a toute la partie visible, évidemment, avec du travail que mène une maire et plus globalement un élu local, c'est-à-dire tout ce qui est représentation, participation à des événements officiels, inauguration de lieux, ouverture d'événements, conférences de presse. Donc, j'allais dire, ça, c'est tout le travail public et toute cette partie qui est davantage tournée vers la représentation publique qui permet de passer des messages à travers les discours, de faire connaître notre action, de montrer les projets qui avancent. Puis, il y a un travail beaucoup plus souterrain, beaucoup plus dans l'ombre, mais qui est également extrêmement important. De rencontres bilatérales avec des acteurs, que ce soit des acteurs locaux, mais aussi Strasbourg, capitale européenne, des acteurs à l'échelle européenne, justement. Donc, ça peut être des eurodéputés, ça peut être des décideurs à l'échelle européenne ou internationale. On est une grande ville diplomatique, donc c'est aussi la rencontre avec les ambassadeurs très présents sur notre territoire. Et puis, tout ce travail, plus de dossiers, plus interne à la collectivité sur des décisions à prendre, des arbitrages, pas simple. Tous les jours, je dois rendre des dizaines de décisions qui vont avoir évidemment plus ou moins de conséquences dans la vie des gens. Mon arbitrage, il est évidemment en dernier recours puisque là aussi, on travaille de manière transversale et collective et j'associe évidemment mes collègues à ces décisions. Et peut-être pour finir, tout ce qui est aussi préparation des conseils municipaux. Donc, c'est la préparation des délibérations, les relectures autour de la préparation des conseils municipaux et métropolitains.
Est-ce qu'il y a des défis personnels que vous avez rencontrés ? Est-ce que vous êtes heurté à des obstacles ? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit « c'est difficile, je ne m'attendais pas à ça » ?
En tant que maire, je pense d'ailleurs homme ou femme, on est extrêmement exposé publiquement, puisque justement on est une personne publique identifiée. Et ça, c'est plutôt une bonne chose pour la démocratie, identifiée par les habitantes et les habitants, mais qui du coup ont tendance à nous faire porter la responsabilité de tout ce qui se passe dans la ville et tout ce qui se passe dans leur quotidien, y compris quand ça ne relève pas des compétences d'une municipalité qui, malgré tout, même si nous avons des leviers et tant mieux, eh bien, a des budgets et des compétences restreintes. Donc, cet enjeu d'exposition, oui, c'est un défi. La campagne avait déjà été cette opportunité de s'y préparer, mais on doit s'habituer au fait que les gens nous connaissent dans la rue, nous abordent spontanément sur tous les sujets possibles et inimaginables. Faire face aussi, mais ça c'est le lot malheureusement de plus en plus de tous les élus locaux, à beaucoup de violences qui s'expriment. Je vais modérer tout de suite ce que je dis. Ils s'expriment beaucoup moins dans la vie de tous les jours, voire quasiment pas, mais qu'ils s'expriment énormément dans les réseaux sociaux, dans les courriers qu'on peut recevoir, parfois anonymes, où on sent vraiment des propos insultants, sexistes, racistes, qui peuvent être extrêmement décomplexés. C'est vraiment extrême sur les réseaux sociaux, avec énormément de haine et de violence. Encore une fois, je constate quand même que dans la vie de tous les jours, dans la vraie vie, en fait, le lien est beaucoup plus apaisé et pacifié. Donc, je pense aussi que ce qu'on voit sur les réseaux est souvent une loupe déformée de ce que notre société très connectée peut produire de pire et pas forcément représentative des liens très, très sains et bienveillants qu'on peut avoir avec les habitants au quotidien.
Oui, et puis ce que vous décrivez, ça fait référence au phénomène de violence contre les élus qui est en augmentation. Tous les élus en France sont concernés. Et matériellement, vous diriez que la vie politique a eu des conséquences sur l'organisation de votre vie personnelle, peut-être de votre vie familiale? Est-ce qu'il a fallu réajuster certaines choses? Comment est-ce qu'on fait?
Absolument. Chaque minute de mon agenda est organisée en lien avec mon cabinet et mes collaborateurs et mes assistantes, et donc y compris vie personnelle. Et évidemment, il y a beaucoup moins d'espace pour la vie personnelle, qui est néanmoins évidemment indispensable pour se reposer, pour se ressourcer, pour aussi se réancrer, j'allais dire, en dehors de la sphère politique. Donc ça, c'est évidemment un défi au quotidien. Et au fur et à mesure des années de mandat, j'apprends justement à pouvoir mieux appréhender mon agenda, avoir aussi d'être davantage, de moins le subir et de davantage choisir la manière dont je m'investis, avec parfois, par exemple, le choix d'être sur des semaines très intenses avec beaucoup de représentations publiques et ensuite des journées plus calmes ou plus tournées vers l'interne et les dossiers qui permettent de trouver un équilibre. Et puis aussi un besoin, malgré tout, de temps en temps, de recharger les batteries avec quelques jours de repos. C'est évidemment indispensable sur la durée.
Le temps, l'allié anti-burnout.
Voilà.
Alors, vous m'offrez la transition parfaite puisque je voulais aborder le fait que le mois prochain, Strasbourg s'apprête à être couronnée capitale mondiale des politiques temporelles. Je vous avoue que j'ai découvert ce prix, cette distinction en préparant notre épisode. C'est un titre qui a été créé par un réseau européen qui s'appelle Time Use Initiative et qui réunit des collectivités qui promeuvent le droit au temps. Donc, j'explique un petit peu ce que c'est pour nos auditeurs et auditrices. Après Barcelone, Bolzano, c'est Strasbourg donc, qui va être récompensé pour son engagement à repenser le temps et à promouvoir des politiques temporelles innovantes au service des citoyens. Vous recevez ce prix parce que vous, à Strasbourg, vous mettez en place plusieurs politiques publiques un peu innovantes, hein, le congé menstruel, la semaine de 4 jours, les modes de garde, on va rediscuter de tout ça. Première question, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça recouvre finalement cette notion de politique temporelle?
En fait, c'est la prise en compte des différents temps de vie des personnes et des différents temps dans la ville et de leur influence dans la construction de nos politiques publiques. Je vais vous donner des exemples très concrets. J'ai des collègues qui travaillent sur le temps de la vie nocturne et qui ont pu procéder avec des acteurs du territoire, avec des habitantes et habitants, à des déambulations la nuit pour pouvoir percevoir la manière dont notre ville vit une fois que une grande partie de la population est couchée, et donc aussi bien dans les enjeux de sentiment de sécurité dans la ville. On pense évidemment à l'heure de la crise énergétique, à la question de l'éclairage public la nuit. On peut penser aux politiques de sécurité, mais il y a aussi un aspect beaucoup plus festif sur la manière dont la ville va vivre la nuit, avec un enjeu de conciliation cette vie étudiante et festive avec évidemment les nuisances et la tranquillité des habitants. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple que je peux donner, c'est la conciliation des temps de vie. Et là, notre collectivité En tant que, qu'employeur, la ville et l'Eurométropole de Strasbourg, c'est 7000 agentes et agents. Donc, nous sommes une très grande collectivité. On travaille très fortement sur notre responsabilité d'employeur dans la réduction des inégalités femmes-hommes. Ça passe évidemment par la question des écarts de salaire. Avec, c'est un dialogue social et des financements supplémentaires pour permettre de réduire ces écarts. Mais ça passe aussi par une organisation différente du temps de travail, avec notamment une réforme engagée depuis le début de cette année sur la possibilité pour les agentes et agents de travailler 4 jours par semaine. Et j'ajoute, parce que c'est un métier très féminin, que nous avons d'ailleurs aussi proposé une semaine de 4 jours, mais à 32 heures et non pas à 35 heures pour nos ATSEM, donc les aides assistantes maternelles. C'est majoritairement vraiment 90-95% des femmes. C'est des métiers aujourd'hui très féminisés. Et donc, c'est aussi de leur permettre de reconnaître la pénibilité de leur travail et de leur permettre une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Donc, la semaine de 4 jours, il y a également le congé menstruel. L'Eurométropole Strasbourg expérimente ce congé menstruel depuis cette année. Vous avez signé la tribune pour la généralisation du congé menstruel aux côtés d'autres maires de France. Donc concrètement, ça veut dire qu'une femme souffrant de règles douloureuses pourra poser un ou plusieurs jours de congé. L'Espagne avait passé le cap. Comment ça se traduit pour les agents de votre collectivité ?
C'est aussi dans cette logique de notre politique des ressources humaines. C'est aussi pour lever des tabous, en fait, qui concernent les femmes. On avait commencé à travailler sur ces tabous autour des règles avec la lutte contre la précarité menstruelle. Donc, depuis le début du mandat, nous avions mis en œuvre un certain nombre de campagnes, de colloques, mais aussi de collectes et de distributions gratuites de protection menstruelle pour les femmes, et pour continuer de lever ces tabous, mais aussi de permettre de prendre en compte les difficultés rencontrées par certaines femmes pendant la période des règles. Nous avons effectivement décidé d'expérimenter le congé menstruel. C'est encore un peu tôt pour l'évoquer, parce que c'est encore des discussions en cours avec les agentes et agents, avec les organisations syndicale. Donc, c'est une expérimentation. A priori, ce sera évidemment sur la base du volontariat. Et un des aspects qui nous paraissait important de creuser, c'était notamment la question encore trop peu connue de l'endométriose, qui touche pourtant de nombreuses femmes et qui peut générer des douleurs assez insupportables, qui rendent évidemment le travail difficile. Donc, on est en train d'analyser qui à la fois permet une meilleure reconnaissance de ces problématiques de santé des femmes, qui est vraiment un sujet qui nous occupe et qui nous préoccupe fortement, et à la fois évidemment la continuité du service public et faisant en sorte que ça reste fluide dans notre organisation du travail. Donc c'est un work in progress.
On va justement continuer sur cette thématique de santé des femmes et conciliation des temps public-privé. La maire écologiste de Poitiers, Léonore Monconduy, a évoqué publiquement la question de son congé maternité. Elle a annoncé qu'elle allait interrompre son mandat du 15 mars au 15 mai. Et la loi ne prévoit pas vraiment de mécanisme pour compenser les pertes de revenus des mères, et pas grand-chose n'est prévu pour assurer l'intérim d'une femme mère. Je cite, « La loi n'a pas été pensée pour l'exercice des responsabilités par les femmes », c'est ce qu'affirme Johanna Roland, la maire socialiste de Nantes et qui est présidente aussi de France Urbaine. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense qu'effectivement, on est très clairement dans un impensé de nos règles nationales et de notre système national, d'un impensé aussi autour du statut de l'élu. Il y en a d'autres. On se rend compte très clairement, notamment quand on élabore une liste municipale, que au-delà des questions d'autocensure ou de complexes d'illégitimité que peuvent connaître certaines femmes et qui demandent un accompagnement spécifique pour les inciter à se présenter en politique, il y a aussi des questions très pratiques, comme celle que vous venez d'évoquer sur le fait de dire, mais voilà, si je tombe enceinte, ou comment est-ce que je vais pouvoir concilier justement ma vie familiale quand on a de jeunes enfants. Alors évidemment, il y a un enjeu aussi de partage des tâches évidemment équitables au sein du foyer, et on sait que c'est loin d'être le cas en France, puisque c'est encore 75% les femmes qui assurent toutes les tâches domestiques et aussi tout ce qui relève de l'accompagnement, soit des enfants, mais aussi des personnes âgées, soit on en parle aussi peu, mais ça peut être aussi le fait d'être un aidant pour un parent peut-être qui est en perte d'autonomie. Ces questions-là ne sont pas pensées. Et donc, c'est un problème parce que, de fait, ça signifie que ça va rendre l'accès à ces postes et donc à la démocratie plus difficile pour toute une partie de la population qui, du coup, risque de ne pas être représentée. Donc, pour moi, c'est un enjeu profondément démocratique que de prendre en compte la réalité des situations quand on est élu, et notamment de la situation des femmes. Moi, j'ai aussi des collègues femmes qui interpellent souvent sur le coût de la garde d'enfants générée par le fait d'exercer des fonctions qui font que vous devez souvent travailler en soirée ou le week-end, et c'est pas forcément des choses qui sont prévues automatiquement. Donc, il peut y avoir des démarches volontaristes des collectivités. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on a de nombreux impensés qui, encore une fois, confortent des inégalités, voire des discriminations, et empêchent une pleine représentativité démocratique dans nos assemblées locales.
Donc, pour une révision du statut de l'élu, finalement.
Tout à fait, absolument.
Alors, on va continuer ce débat sur la parité en politique. Vous l'avez dit, la parité, on n'y est pas encore, que ça soit dans la vie domestique ou dans la vie politique. Les postes exécutifs restent souvent trustés par les hommes. Mais chez vous, à Strasbourg, vous faites un peu mentir les statistiques, il faut dire. Je rappelle que le chiffre, c'est que 11% seulement des femmes sont à la tête d'Interco. Et autour de vous, dans votre staff ou dans vos équipes, vous avez aussi beaucoup de femmes. Hein. Votre équipe me l'a confirmé. Chefferie de cabinet, co-directrice, directrice de la police, le rond métropole est présidé par une femme. Et vous, vous êtes la première VP. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ?
D'abord que, effectivement, en termes de gouvernance, on a cherché à innover. Et vous l'avez dit, l'Eurométropole de Strasbourg est présidée par une femme, Pia Hims. Et nous avons même fait le choix, en début de mandat, de proposer, en fait, un trio féminin à la tête de l'exécutif, avec, donc, la présidente de l'Eurométropole, Pia Hims, et deux présidentes déléguées, première et seconde VP, vice-présidente, Danielle Dorbar, qui est la maire écologiste de Schiltigheim, qui est la deuxième plus grande ville de notre Eurométropole, et Strasbourg, donc moi-même. Et cela qui permettait de montrer l'enjeu aussi de coopération entre des communes de tailles différentes, puisque Pia Hims est maire d'une petite commune plutôt en zone rurale de plus de 3000 habitants. Et donc, c'était de montrer un trio féminin. Donc, ça, l'image, là, symboliquement, a montré qu'on était sur une autre logique, avec effectivement une place des femmes très affirmée, pas seulement à la tête de l'exécutif, mais vous l'avez dit, aussi dans l'administration, hein, qui tend de plus en plus vers la parité, aussi bien au sein de la direction générale que dans les postes de direction. Globalement, j'évolue effectivement dans un environnement très féminin. L'autre chose intéressante, c'est qu'on a souhaité aussi dédier des compétences, des portefeuilles des adjointes et adjoints qui étaient souvent donnés traditionnellement à des hommes, et bien à des femmes. Je pense notamment à la question de l'urbanisme. L'urbanisme, les grandes tours, c'est souvent un environnement très, très masculin. Moi, c'est mon adjointe Suzanne Broly, qui est en charge de l'urbanisme et de la ville résiliente. Elle est aussi vice-présidente en charge de l'habitat à la métropole. Ou encore mon adjointe à la sécurité et à la tranquillité publique, Nadia Zourli. Également un domaine qu'on avait l'habitude de voir attribué plutôt à des hommes. Donc, je suis entourée de femmes très volontaires, très engagées, très, très fortes. Autour de différentes thématiques. On avait jusque-là, effectivement, plutôt l'habitude de voir des hommes.
Comment est-ce qu'on renforce la parité en politique en France et comment est-ce qu'on encourage de plus en plus de femmes aussi à s'engager dans la vie politique de notre pays ? Est-ce que vous avez des idées particulières là-dessus ?
Je pense qu'il y a un vrai travail d'accompagnement. Alors, bien sûr, les lois sur la parité sont essentielles parce qu'elles permettent de générer un automatisme où, au début, ça peut grincer un peu des dents, hein, du côté des hommes, bien sûr. Mais finalement, ensuite, ça devient naturel. Mais je pense quand même qu'il y a un travail spécifique à faire. Pendant la campagne des municipales à Strasbourg, j'ai vu affluer énormément d'hommes qui venaient me voir très sûr d'eux en me disant « Voilà, mes compétences, c'est ça. Moi, ce que je veux faire, c'est ça. Et je veux être à tel numéro sur la liste avec beaucoup d'assurance. » Et par contre, à chaque fois que j'avais en tête de potentielles candidates, des femmes extrêmement compétentes hein, dans leur domaine respectif. J'entendais, ben, je ne sais pas, est-ce que je suis légitime pour mener une carrière politique? Est-ce que je saurais mener à bien mes fonctions? Et donc, plutôt ce complexe d'illégitimité, on l'a identifié et conscientisé. On a même organisé des réunions dédiées à des femmes qui étaient intéressées par notre projet, mais qui n'osaient pas franchir le pas de se présenter en politique. Et donc, on a fait des ateliers, comme on dit, en non-mixité choisie, c'est-à-dire vraiment entre femmes, pour être dans un cadre sécure qui permette vraiment d'aborder tous les freins qu'elles pouvaient avoir, aussi bien au personnel, comme je disais, cette forme d'autocensure sur laquelle il faut qu'on travaille. Et là, l'accompagnement collectif est important et individuel, mais aussi sur les questions plus logistiques et pratiques qu'on évoquait tout à l'heure à propos du statut de l'élu. Et donc, je suis assez heureuse que ces initiatives aient permis de lever les freins pour un certain nombre de ces femmes qui, du coup, ont décidé de se lancer et qui font aujourd'hui de fabuleuses élues locales.
Et les freins qui revenaient le plus souvent, c'était l'autocensure, le doute sur la capacité à être en mesure d'assumer.
Oui, ça clairement, tant que femme et malheureusement dès la petite enfance, on est moins amené ou accompagné dans le système éducatif pour s'exprimer en public, pour peut-être prendre des initiatives, en tout cas moins valorisé pour le fait d'assumer un rôle de leader. Et donc, bah, c'est effectivement des freins qu'on retrouve ensuite à l'âge adulte et qui créent de vraies biais dans la vie politique. Juste aussi pour faire le lien avec nos politiques publiques municipales, quand on a décidé de végétaliser les cours d'école à Strasbourg, on en a profité pour revoir tout l'aménagement des cours à l'aune de l'égalité filles-garçons, parce qu'on avait conscience aussi que la place des femmes et leur sentiment de légitimité dans la ville, dans la société, dans l'espace public, se jouait dès les premières années à l'école, quand elles sont reléguées sur les côtés à regarder les petits garçons jouent au foot au milieu de la cour, eh bien, ça a une influence et on intériorise le fait qu'on n'est pas au centre du jeu et que finalement, on est comme des accessoires finalement de la société. On a retravaillé avec des spécialistes l'aménagement de nos cours d'école pour les penser à cette aune de l'égalité filles-garçons et que nous disent les enseignants et aussi les enfants, c'est que ça change véritablement les jeux qui sont menés, ça incite à beaucoup plus de mixité dans les activités, ça incite à beaucoup plus de coopération, et nous pensons, en tout cas, on pourra l'analyser dans quelques années, ça va permettre aux filles, et donc aux futures femmes, de se sentir aussi plus légitimes à prendre leur place dans la société.
Super. C'est vrai que ça commence dès la cour d'école, en fait. Tous ces biais culturels, tous ces biais sociaux sont intériorisés dès la petite enfance, en fait.
Absolument. Oui, j'en suis convaincue. Et on est nombre de femmes à avoir dû franchir aussi et lever ces différents freins pour pouvoir assumer des responsabilités jusque-là dévolues aux hommes.
Si vous pouviez chuchoter quelques conseils à l'oreille de votre vous d'il y a quelques années, qui peut-être menait ses premières campagnes politiques, qui devait justement lever ses freins personnels, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à votre vous d'il y a quelques années ?
Ose, et je l'ai fait, hein, puisque sinon je ne serais pas au poste que j'occupe aujourd'hui. Et puis aussi, fais-toi confiance. Toutes ces questions qu'on évoque sur l'autocensure, je vous les suis posées aussi. J'ai travaillé là-dessus, encore une fois seule, mais aussi avec des collègues, avec des personnes qui permettaient justement de prendre confiance dans la capacité à faire. Donc, c'est quelque chose, non seulement je me chuchoterais à mon moi d'il y a quelques années, mais à toutes les jeunes femmes qui ont des convictions fortes et qui craignent de ne pas avoir la capacité ou la légitimité à mener leur projet. Donc moi, je pense qu'on est dans un monde qui nous ouvre de fabuleuses opportunités, qui rencontre aussi de grands défis On a besoin de personnes engagées. Et tout à l'heure, j'évoquais mes collègues qui ont franchi ce pas de se lancer. Ça fait des élus aussi qui sont pas là, j'allais dire par orgueil, mais véritablement pour servir l'intérêt général. Et voilà, des élus qui sont humbles et qui sont pleinement dédiés à leurs tâches et non pas menés par leur égo. Donc, je pense qu'on a tout intérêt à faciliter l'accès des phares à cette vie politique, sans vouloir non plus essentialiser hein, les hommes et les phares. Donc, les phares ont toutes les qualités, les hommes tous les défauts, pas du tout. Mais je pense que dans les constructions, en tout cas sociétales, clairement, on se doit de lever ces freins.
L'entourage, vous l'avez rappelé, c'est très important justement pour aider à prendre confiance en soi. Il faut être bien entouré.
Ouais, bien sûr, bien entouré au quotidien, au niveau politique, bien entouré dans sa vie personnelle. Moi, c'est quelque chose que je répète beaucoup à mes collègues. Hein. Autant que faire se peut de garder des activités, soit professionnelles, soit de loisirs ou associatives en parallèle de leur mandat. Garder justement un ancrage en dehors de la vie politique et puis de consacrer le temps nécessaire. C'est souvent difficile, c'est pour ça qu'on doit souvent se le répéter entre nous, de consacrer le temps nécessaire à son entourage, à ses proches, à sa famille, à ses amis et de ne pas tout sacrifier à la vie politique. Parce que je pense aussi que notre engagement politique, il se nourrit de ce que nous apportent également nos proches. Et puis, il faut aussi qu'on puisse être présent pour eux. C'est bien de s'engager pour le bien public et l'intérêt général, mais on doit aussi être présent pour nos proches. C'est parfois plus facile à dire qu'à faire, mais on s'était fixé au sein de notre équipe cet enjeu de permettre cette conciliation, en tout cas, au quotidien.
Écoutez, on s'approche de la fin de notre épisode. Une dernière question pour clore cet épisode. Si vous aviez un mot pour résumer cet épisode, vous choisirez lequel ?
Eh bien, l'égalité. Voilà, l'égalité. Un enjeu d'une société plus égalitaire.
Merci beaucoup, Jeanne Barcellian, pour votre temps, votre confiance et ses confidences.
Merci beaucoup à vous.
Merci pour votre écoute engagée. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le noter 5 étoiles. On se retrouve très vite. Mais en attendant, vous pouvez rejoindre la communauté sur Instagram, Twitter ou Facebook sous le nom ElMarianneFR. Je vous dis à bientôt.